Bonjour à toutes et à tous. Merci aux musiciens qui nous ont accompagnés dans notre louange au Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer donc notre étude du livre de l'Exode. Et la semaine dernière, nous avons vu avec Vincent, pasteur Vincent, ce petit Moïse, un enfant hébreu qui est élevé comme un prince égyptien. Et ça ne devait pas être tous les jours très facile pour lui de se forger une identité. Était-il hébreu ou égyptien? Mettons-nous à sa place. Ses frères, les Hébreux, devaient le regarder avec mépris, parce que lui, qui est un prince égyptien, ils le voient, eux, qui sont depuis l'esclavage. Pour lui non plus, Moïse, ça ne devait pas être facile. Parce que comment peut-il s'identifier avec ses frères, lui qui est un prince, et eux qui sont esclaves? Les Égyptiens, eux, ne devaient pas le regarder avec moins de mépris. Parce que lui qui est hébreu, il est d'une certaine manière, étant le fils adoptif de la fille du Pharaon, au-dessus d'eux. Et donc, il peut leur donner des ordres. Et une question que Moïse devait entendre tous les jours alors qu'il était en Égypte, c'était: mais qui es-tu, toi, pour? Les Égyptiens devaient lui dire: mais qui es-tu, toi, pour prendre autorité sur nous? Toi qui n'es qu'un hébreu. Et la semaine dernière, nous avons vu au chapitre 2 que lorsqu'une querelle apparaît entre deux hébreux, Moïse tente d'intervenir et les siens, ses frères, lui disent: qui es-tu, Moïse, pour être notre juge? Qui es-tu pour prendre autorité sur nous? Qui t'a donné l'autorité pour être notre chef? En Égypte, Moïse ne savait pas exactement qui il était. Le nom même de Moïse est à la fois un nom hébreu et égyptien. Il dit qu'il est hébreu, peut-être que dans son cœur, il sent qu'il est hébreu. Mais dans la pratique, il est égyptien. La semaine dernière, pasteur Vincent nous disait entre autres que nous avons deux credos: ce que nous disons et ce que nous faisons. Et que tant que lorsque les deux ne s'aligneront pas dans notre vie, on ne pourra pas s'en sortir. Et le jour précédant la querelle entre ses frères hébreux, Moïse voit un hébreu en train de se faire frapper par un égyptien. Alors il se dit: après tout, je suis un prince égyptien. J'ai l'autorité pour délivrer mon peuple. Et il tue l'égyptien. Le jour suivant, il est contraint de fuir dans le désert. Et à la fin du chapitre 2, Moïse est un prince égyptien en exil dans un pays étranger. Voyez l'ironie de la chose. Le peuple hébreu est en exil parce qu'il est en Égypte. Moïse, lui, est en exil parce qu'il est hors de l'Égypte. Et lorsque les filles de Réuel, son beau-père, son futur beau-père, racontent à leur père ce qu'il s'est passé au puits, elles disent: « Un Égyptien nous a délivrés ». Moïse n'avait pas encore trouvé sa vraie identité. Et c'est difficile d'avancer dans la vie lorsque l'on se cherche. Lorsque l'on construit notre vie sur du sable, sans fondation stable et sûre. Et nous arrivons ce matin au chapitre 3. Faisons la lecture des chapitres 3 et 4 jusqu'au verset 17. Exode chapitre 3. Moïse était devenu le berger de son beau-père Jéthro, du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: « Moïse, Moïse !» Il répondit: « Me voici. » Dieu dit: « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce que l'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos filles et vos fils, enfin vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'il ne te croit pas, et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier. S'ils ne croient toujours pas avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et je serai avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. Ce matin, nous allons voir trois points. Dans un premier point, nous allons voir le bâton de Moïse. Dans un second point, nous allons voir la patience de Dieu. Et dans un troisième point, nous allons voir le bâton de Dieu. Moïse a passé les 40 premières années de sa vie en Égypte. Et alors qu'il avait 40 ans et qu'il était fort aux yeux de ce monde, il a tenté de libérer son peuple. En fait, il a juste essayé de venir en aide à un seul Hébreu. Et il a lamentablement échoué. Et maintenant, il a 80 ans. Et maintenant, il vit dans une profonde humilité. Et maintenant, au verset 9. Et encore maintenant, au verset 10. Et maintenant, c'est le moment qu'a choisi Yahweh, l'Éternel, celui qui dit « Je suis celui qui suis ». C'est le moment qu'il a choisi, dans son entière connaissance de toutes choses, pour libérer son peuple. Il y a dans ces premiers chapitres de l'Exode un contraste flagrant entre la parfaite maîtrise de Dieu, qui entend ce qu'il se passe, qui voit ce qui se passe, qui comprend ce qu'il se passe et qui contrôle ce qu'il se passe, et Moïse, qui lui ne contrôle rien, mais qui à chaque moment de sa vie est dépendant des autres et qui ne comprend même pas vraiment qui il est. La semaine dernière, nous avons vu combien Dieu est souverain dans la première partie de la vie de Moïse. Chaque petit détail est réglé afin que Moïse devienne qui il est. Avec les sages-femmes qui craignent l'Éternel et ne tuent pas les fils des Hébreux, et ne tuent pas Moïse. La fille du Pharaon qui va payer la mère de l'enfant pour le nourrir. Aujourd'hui, on appellerait ça des allocations familiales. Et puis la maison du Pharaon qui instruit celui qui va causer sa perte. Dieu est au contrôle. Et cette semaine, nous voyons le premier verset du chapitre 3 qui dit « Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro. » Et ceci implique plusieurs choses. Premièrement, qu'il ne se voit plus comme un Égyptien. En effet, il est devenu berger. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 46, alors que le peuple hébreu vient en Égypte, on leur demande « Quelle est votre occupation ? Quelle est votre profession ? Qu'est-ce que vous faites ?» En quelque sorte, quelle est votre identité? Et ils répondent, eh bien, nous sommes bergers, tout comme l'étaient nos ancêtres. Alors le pharaon leur donne une terre un peu à part, la terre de Goshen. Et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait cela? Et en fait, la fin du chapitre 46 nous dit que les bergers font horreur aux Égyptiens. Moïse est devenu ce qui fait l'identité d'un Hébreu et ce qui fait horreur aux Égyptiens. Il a pris dans sa main son bâton qui lui sert en tant que berger et il a abandonné son habit de prince égyptien. Moïse progresse dans sa recherche de lui-même. Son identité s'éclaircit peu à peu. La deuxième chose que ce verset nous dit, eh bien, c'est qu'il vit dans l'humilité. De prince égyptien qu'il était, il est devenu berger d'un troupeau qui n'est même pas à lui. Le troupeau de son beau-père. Et l'humilité est la caractéristique principale qui va lui servir pour être un instrument entre les mains de Dieu. La troisième chose, c'est qu'il passe 40 ans dans le désert d'Horeb, où il peut étudier la topographie du terrain et aussi il a l'opportunité de diriger un troupeau de brebis. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas complètement différent de diriger un grand peuple. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, l'Éternel a toujours un but dans les épreuves qu'il permet dans nos vies. La plupart du temps, lorsque nous sommes en train de traverser ces dites épreuves, nous ne comprenons pas pourquoi. Nous râlons. Nous râlons comme râlerait un enfant que son père traîne à l'école en le tenant par la main et qui pleure et qui demande « Mais pourquoi ?» Et son père lui dit « Écoute, mon fils, tu ne comprends pas maintenant, mais un jour, tu comprendras. Et l'Éternel nous dit à nous aussi aujourd'hui, fais-moi confiance. Je sais que c'est dur. C'est pour ça que je te tiens par la main. Mais un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans 10 ans, peut-être même pas dans ce monde, mais un jour, tu comprendras pourquoi. Tu diras « Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. » Lorsqu'au Romains 8, 28 nous dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut réellement dire toutes choses prises individuellement, les bonnes comme les mauvaises. C'est comme lorsque l'on prépare une bonne tarte aux figues. Si l'on prend certains ingrédients individuellement, comme de l'huile par exemple, c'est vraiment pas bon. Et si l'on arrive à voir le résultat dans sa globalité, si l'on fait confiance au pâtissier, eh bien là, on peut voir une tarte absolument délicieuse. Et on comprend que les figues, mais que l'huile également, étaient autant essentielles l'une que l'autre pour arriver à ce résultat. Mais c'est dur pour l'homme, lorsqu'il est dans l'épreuve, de dire « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ça va être dur pour Moïse. Mais l'Éternel est patient. Quand Moïse a donc 80 ans, l'Éternel va à sa rencontre et il lui apparaît dans un buisson enflammé. L'Éternel choisit de se révéler à Moïse sous la forme d'un buisson qui ne se consume pas. Un feu normal dépend du buisson pour être. Et une fois le buisson consumé, eh bien le feu meurt. Le feu est dépendant du buisson pour son existence. Mais l'Éternel ne dépend de rien pour être qui il est. Il est indépendant du buisson. Il est dans le buisson, mais il ne le consume pas. Alors cela répond à la question « Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Mais ça ne répond pas à la question « Pourquoi l'Éternel a choisi de se révéler à Moïse de cette manière ?» J'ai donc posé cette semaine la question à Pasteur Samuel. Et il m'a dit que parfois, l'Éternel fait des choses non pas afin que nous les comprenions, mais afin que nous soyons émerveillés devant qui il est et que nous apprenions à lui faire confiance. L'Éternel dit à Moïse au verset 10, « Maintenant, vas-y. » Il lui donne sa mission. « Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Mettez-vous à la place de Moïse. À ce moment-là, il a 80 ans. Ça fait maintenant 40 ans qu'il vit en paix, dans le désert, dans l'humilité, qu'il s'est forgé son identité en tant que berger, qu'il a pris son bâton. Il aspire probablement à une paisible retraite, tranquille, avec sa famille. Et pour lui, l'Égypte, ce n'est qu'un mauvais et lointain souvenir. Un souvenir où un jour, alors qu'il était dans la force de l'âge et qu'il était au sommet du monde, il a tenté de venir en aide à un Hébreu et il a échoué. Et maintenant, l'Éternel lui demande de faire sortir des centaines de milliers de personnes de l'Égypte. Moïse ne comprend pas encore qu'il est la personne parfaitement préparée pour cette mission. Et Moïse va tenir tête à l'Éternel. Il va lui faire une série de 5 objections. Et dans la première de ces objections, on la voit au verset 11, il dit « Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Ah, Seigneur, encore, si tu m'avais envoyé il y a 40 ans, et même il y a 40 ans, j'ai essayé de faire sortir un Hébreu. J'ai essayé de le libérer. Je n'y suis même pas parvenu. Alors comment est-ce que maintenant que j'ai 80 ans, je serai capable de faire sortir l'ensemble du peuple d'Égypte ? Je n'ai certainement plus la force. » Et l'Éternel répond, « Je serai avec toi. » Qui délivre le peuple ? Est-ce Moïse ? Au verset 8, l'Éternel dit, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la domination. » Et Moïse est principalement la bonne personne pour le job parce qu'il comprend que de par ses propres forces, il est absolument incapable d'accomplir cette dite mission. Moïse est comme un vieux vase en terre. Mais ce qui est important, ce n'est pas le vase en lui-même, mais ce qu'il contient. Souvent, lorsque le Seigneur nous donne une mission et nous dit qu'il sera avec nous, nous avons tendance à penser qu'il sera un peu comme un coach sportif sur la touche, en train de nous encourager. Mais en fait, c'est plutôt comme si lui-même était sur le terrain, avec nous, qu'il est le joueur le plus fort au monde et qu'il nous promet qu'ensemble, on va gagner la partie. L'Éternel dit donc à Moïse, « Je serai avec toi. » Et Moïse dit, « D'accord, mais toi, qui es-tu? Quel est ton nom? Qui dois-je dire à mes frères m'envoie ?» Alors Dieu fait cette réponse à Moïse qui n'a pas son pareil. Et il dit, « Je suis celui qui suis. » Et tu diras, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » En quelque sorte, il est en train de dire qu'il est l'existence même. Que lui ne dépend de rien et que tout dépend de lui. Que pour lui, tout est un éternel présent. Et qu'il est même le créateur du temps dont il ne dépend pas. Il est plus que l'infini. L'infini implique un avant, un maintenant, un après. Lui, il est un éternel présent. Il est le permanent. Il est le définitif. Et puis Dieu dit à Moïse son nom, Yahweh ou Jéhovah, ce que nous traduisons en français par l'Éternel. Dieu a un nom propre, comme Christophe ou Raphaël ou Marie-Agnès. Dieu n'est pas une force impersonnelle, une sorte de spiritualité à l'eau de rose que l'on peut adapter selon nos désirs. Il a un nom propre, c'est une personne. Ensuite, l'Éternel dit à Moïse, tu iras vers les anciens d'Israël, tu leur diras que je les ai entendus, que je les ai vus, que je les ai compris et que je les ferai monter de ce pays vers un pays bon où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, Moïse. Ensuite, vous irez vers Pharaon, vous lui direz de laisser partir mon peuple afin qu'il adore dans le désert et qu'il offre des sacrifices pendant 3 jours. Lui ne vous écoutera pas, mais j'interviendrai et je ferai des prodiges afin qu'il soit contraint de vous laisser partir. Dans ce dialogue entre Moïse et Dieu, et depuis que Moïse a pris la parole pour la dernière fois pour lui demander « Mais qui est-ce que tu es ?» sa deuxième objection, l'Éternel lui a dit qu'il est l'être absolu. Il lui a dit également exactement tout ce qu'il va se passer dans les 9 prochains chapitres de notre histoire. Il lui a dit entre autres que ses frères vont l'écouter. Et la première chose que Moïse dit lorsqu'il reprend la parole, sa troisième objection, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Vous est-il déjà arrivé, en parlant avec un enfant, de lui dire quelque chose et l'enfant vous répond le contraire? Il vous dit non, c'est pas comme ça, tu as tort. Dans les moments comme ça, notre patience peut être mise à l'épreuve. Et c'est ce que fait Moïse envers Dieu. Et c'est ce que nous aussi nous faisons envers Dieu. Chaque fois que nous doutons de sa bonté envers nous. Chaque fois que nous cherchons notre vrai bonheur dans les choses créées plutôt que dans celui qui les a créées. Mais notre Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui est le roi des rois, est également un Dieu patient et humble qui descend vers son peuple, qui se met au même niveau que Moïse et qui prend du temps avec lui pour le rassurer. Il n'opère pas comme un général sans cœur qui donnerait des ordres à ses soldats. Non. Yahweh est personnel. Il est relationnel. Il agit plus comme un parent qui commande à son enfant. Et si son enfant commence à pleurer, il prend du temps avec lui pour le rassurer. Alors pour rassurer Moïse, à sa troisième objection, l'Éternel lui donne une série de 3 signes qu'il devra accomplir en présence des anciens d'Israël afin qu'il croie. Mais Moïse n'est pas encore totalement rassuré. Moïse n'a pas encore compris que le succès de la mission que lui confie le Seigneur au verset 10 du chapitre 3 ne dépend pas de sa force à lui. Moïse pense que le Seigneur, lorsqu'il lui dit qu'il sera avec lui, il pense que c'est comme un coach au bord de la touche. Alors Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur !» sa 4e objection. Un peu comme s'il voulait dire, « Ah, Seigneur !» Si tu savais, je ne suis pas doué pour parler. Lorsqu'un parent explique quelque chose à son enfant, le parent doit avoir le dernier mot. Et la réponse que fait l'Éternel à cette 4e objection de Moïse, le ton monte. Il lui dit en quelque sorte, « Moïse, souviens-toi de qui je suis, souviens-toi de ce que je viens de te dire. » Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? Ensuite, il lui dit, « Maintenant, vas-y !» Point d'exclamation. « Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai quoi dire. Je serai sur le terrain, avec toi. » La partie est gagnée d'avance. « Maintenant, Moïse, attention, attention quels vont être les prochains mots qui sortent de ta bouche. » Et les prochains mots qui sortent de la bouche de Moïse. « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Là, on peut imaginer le parent qui se met en colère et qui dit à son enfant, « Bon, maintenant, ça suffit. Tu fais ce que je te dis, un point, c'est tout. Tu vas ranger ta chambre. Fin de la discussion. » Mais le Seigneur est encore plus patient que le plus patient des parents. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et dans son amour et dans sa patience pour Moïse, il lui donne Aaron, son grand frère, afin qu'il lui serve de médiateur entre lui et le peuple de Dieu. Le Seigneur donne à son médiateur, qui est Moïse, un médiateur, qui est Aaron. Il dit au verset 16, « C'est lui qui parlera au peuple pour toi. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Ça en fait des médiateurs, tout ça. Et au verset 17, Dieu dit, « Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Revenons au début du chapitre 4. C'est le moment où Moïse rétorque dans sa troisième objection, « Non, ils ne me croiront pas. » Et où l'Éternel lui donne trois signes par lesquels ils croiront. Et dans le premier de ces trois signes, il lui demande, « Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse ?» Et dans sa main, bien sûr, Moïse tient son bâton. Nous avons dit plus haut dans la première partie que ce bâton représente son identité en tant qu'Hébreu, cette nouvelle identité qu'il s'est forgée. Ce bâton, il y est très attaché. Ce bâton, il ne lâche jamais. Ce bâton lui sert pour diriger le troupeau dans le désert. Ce bâton lui sert également de sécurité. Si lui ou le troupeau se fait attaquer par quelques bêtes sauvages ou quelques serpents, il peut se défendre. Et ce bâton lui sert également d'appui pour marcher à travers le terrain rocailleux du désert d'Horeb. Et l'Éternel lui dit, « Moïse, jette ton bâton par terre. Lâche ton bâton. Je vais le transformer. » Sur le coup, vous pouvez bien imaginer que Moïse ne devait pas être bien rassuré à l'idée de lâcher son bâton. Il devait se dire, « Et si jamais un serpent surgit, comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me défendre ?» Il lâche son bâton. Le Seigneur le change en serpent. Moïse, naturellement, a peur. Il commence à prendre la fuite. Et l'Éternel lui dit, « Moïse, Moïse, attrape le serpent par la queue. » Même si vous n'êtes jamais allé à la campagne, même si vous n'avez jamais vu un serpent en vrai, même le plus petit des enfants sait instinctivement qu'il ne faut jamais attraper un serpent par la queue. Et c'est le meilleur moyen de se faire mordre. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, « Tu dois me faire confiance. Bientôt, tu ne pourras plus compter sur ton bâton, pour ta protection ou pour ton appui. Tu ne pourras plus te reposer sur cette identité que tu t'es forgée. Moïse, c'est moi qui serai ta protection. C'est moi qui serai ton appui. C'est avec moi et en moi que tu auras ta nouvelle identité, celle à laquelle tu aspires depuis ta plus tendre enfance. » Il y a presque 500 ans, Jean Calvin disait au début de son œuvre « Institution de la religion chrétienne » « Nous ne serons jamais qui nous sommes tant que nous ne comprendrons qui est Dieu et que nous trouverons notre identité en lui. » Il y a 3500 ans, le Dieu de l'univers, celui qui s'identifie comme le grand « Je suis », est descendu. Il a entendu les cris de son peuple, il les a vus et il est descendu vers eux. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une manifestation physique du Dieu qui est esprit, est venu à la rencontre de Moïse. Il en a fait son médiateur. Et il lui a dit, « Maintenant, vas-y, va libérer mon peuple. » Moïse a répondu, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Mais c'était déjà prévu. Et 1500 ans plus tard, le grand « Je suis » est redescendu vers son peuple. Mais cette fois, il n'a pas choisi un médiateur pour libérer son peuple. Cette fois, il l'a fait lui-même. Et lorsque le moment fut venu, dans le jardin de Gethsémané, le Père a dit au Fils, Maintenant, vas-y. » Et en pleine tempête et en pleine épreuve, Jésus a répondu « Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. » C'est Jésus, le véritable Moïse. C'est Jésus, il y a 2000 ans, lorsqu'il est monté à la croix, qui a libéré son peuple, une fois pour toutes, du véritable esclavage qui est le péché. Un matin, alors que Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il était encore seul à ce moment-là. Il vit deux hommes qui vivaient dans l'humilité, un peu comme Moïse. Ils n'étaient pas bergers, eux, ils étaient pêcheurs. Et un peu comme il l'avait fait avec Moïse, il s'est approché d'eux. Et il leur a dit « Lâchez vos filets, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et comme il l'a fait avec Moïse, il a pris du temps avec eux. Il a été humble et patient, il a passé 3 années avec eux. Il a pris le temps pour leur expliquer qui il est et pour les préparer à la mission qu'il leur a confiée à eux aussi avant de monter au ciel. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et comme il l'avait fait avec Moïse, il leur a dit à eux aussi « Et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est marrant comme l'histoire se répète. Et l'histoire se répète encore ce matin. Et le Seigneur nous demande ce matin à chacun, « Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il nous demande de le lâcher et de lui en faire offrande. Il nous demande de lui faire confiance pour notre sécurité. Il veut qu'on le prenne, lui, comme notre seul appui dans la vie. Il nous demande de lui offrir tout ce que nous sommes. En quelque sorte, il nous demande de lui offrir notre identité, tout notre être comme un sacrifice vivant de bonne odeur. Sommes-nous prêts à le faire? Évidemment, nous ne sommes pas meilleurs que Moïse ou que les apôtres. Mais notre Père céleste est patient avec nous aujourd'hui aussi, comme il l'a été avec Moïse et avec ses apôtres. Et il sera patient avec nous toute notre vie, afin que nous comprenions de plus en plus, de jour en jour, à quel point il nous a aimés en Christ. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à déposer à ses pieds toutes les choses qui font notre joie dans ce monde. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à trouver notre vraie identité en lui et à le laisser être tout ce qu'il dit qu'il est, le grand je suis. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à lui faire confiance et à trouver notre vraie joie en lui. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à lâcher notre bâton afin qu'il devienne le bâton de Dieu.